porter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pouruneconstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Je vous avais promis de parler de l'Europe, et je vous jure, quel devoir je me suis infligé là. Alors, j'ai décidé, donc avant tout, de vous parler un peu d'histoire et de géographie pour mieux comprendre ce beau continent que nous avons du mal à limiter. Car si la civilisation grecque et romaine ont eu une influence majeure sur la formation de la culture européenne, une première question se pose. Où sont les véritables frontières de l'Europe? Je parle géographiquement, bien sûr. Donc, je vous invite à consulter un atlas. Tu voulais dire quelque chose, papa?
Et encore, même en consultant un atlas, puisque c'est un vieux conflit qui n'intéresse que peu de gens, mais pour savoir quel est le point culminant. Voilà,
voilà, voilà. J'ai consulté et j'ai
voilà.
vu.
La... Alors, on dit tous que c'est le Mont Blanc, mais en fait, justement, à la frontière géographique de l'Europe, il y a le Mont Elbouz, ou Elbouz, un nom
oui,
comme
Elbouz,
ça.
Elbouz. Oui, si, j'ai
qui dépasse le Mont Blanc. Alors, est-ce qu'il est en Europe? Est-ce qu'il n'est pas en Europe? Donc, les Français, notamment, puisque déjà, le Mont Blanc... C'est la frontière avec l'Italie, je vous le rappelle.
Ouais, mais attention, on est en train de fondre. Hein.
Il diminue. Il diminue en taille. Non, mais c'est vrai, il diminue en taille. Mais déjà, c'est avec la frontière avec l'Italie. Le Mont Blanc, donc il est en France. Mais donc, on décide que le Mont Elbouz ne fait pas partie de l'Europe. Comme ça, ça résout les problèmes et on dit que c'est le Mont Blanc qui est le point culminant.
Bon, alors moi, je conseille toujours, allez consulter un atlas. Voilà.
Alors, c'est la même chose, je suis désolé d'insister, mais consulter des atlas avec plusieurs types de projections.
Oui.
C'est un détail, mais en France, enfin en Occident, on utilise la projection de Mercator qui donne une proportion énorme à l'Europe.
Ah oui, ça, oui. C'est...
Alors, si on utilise d'autres types de projections, on voit les vraies proportions qui sont les proportions réelles.
C'est-à-dire
que l'Afrique est immensément plus grande que l'Europe.
T'as l'Amérique du Sud aussi qui bouge beaucoup.
Bah oui, tout l'hémisphère sud.
Oui.
C'est-à-dire qu'on rend les proportions réelles. Or, la projection de Mercator donne une importance particulière à l'Europe et à tout ce qui est dans l'hémisphère nord. D'ailleurs, la projection de Mercator qu'on connaît tous, qui est l'Atlas qu'on connaît tous, donne pas, par exemple, le Canada qui est le deuxième plus grand pays au monde. Et ben, on n'a pas du tout cette impression quand on voit, parce que c'est trop au nord par rapport au type de projection qui est la projection de Mercator.
Bon, donc je vous rappelle, allez voir des atlas, parce que c'est intéressant et la question se pose, quelles sont les limites de l'Europe, du continent européen?
Il n'y a pas de limite franche à l'Europe, c'est ça le problème.
Voilà.
Il n'y a aucune limite matérielle.
Oui.
C'est-à-dire, ce n'est pas un fleuve, c'est pas, à part dans l'Oural, justement, avec le Mont Elbouz.
Oui, est-ce qu'on pourrait pas mettre une partie de la Russie dans l'Europe?
Ah ben, tout à fait, voilà.
Non, mais c'est vraiment intéressant de se poser cette question au niveau de la géographie, déjà. Bon, après, j'ai regardé, mais nous pourrions aussi parler des guerres de religion. La guerre de Cent Ans. Conflit qui oppose le royaume de France au royaume d'Angleterre. Charles V, du Guesclin, Jeanne d'Arc, ça vous parle? Oh oh, le roi d'Angleterre réclame la couronne de France. Elle se termine par une victoire française. Mais hélas, ils brûlèrent notre pauvre Jeanne d'Arc.
Oui, c'est pas vrai, mais bon.
Bon. Alors,
il y a des thèses d'historiens.
Ouais, oui, il y a beaucoup d'histoires autour de Jeanne d'Arc.
Des preuves réelles qu'elle a jamais été brûlée.
Existait-elle cette femme, garçon manqué?
Tu poses une réelle question parce que il y a même un historien qui a démontré que c'était pas une femme et qu'en fait c'était un homme.
Bien. Alors voilà. Donc vous voyez encore, même au niveau de notre histoire, vous allez voir. Il est vrai qu'à cette époque-là, c'était aussi des guerres d'héritiers, de royaumes, de mariages. Ah, le pouvoir des hommes. Les guerres du XVe et XVIe siècle ne sont pas tristes non plus. Alors, ce sont les guerres dites de 30 ans, qui continuent dans des conflits de rivalité politique et religieuse en Europe centrale essentiellement. Si la réforme protestante du début du XVIe siècle a divisé l'Église chrétienne et a eu des répercussions importantes sur la politique européenne, dans tous les cas, c'est à cette époque-là que l'Espagne, le Portugal, la France, l'Angleterre mèneront les grandes explorations maritimes et ouvriront de nouvelles voies commerciales avec le Nouveau Monde et l'Asie, contribuant à l'essor du commerce et à l'émergence des empires coloniaux, non sans mal et avec violence sur les peuples indigènes. Ces événements pourraient marquer les débuts de l'Europe en tant qu'entité politique, commerciale, sa richesse quoi. Nous devons le dire, l'Europe a été un continent marqué par les guerres. Alors, au XXe siècle, l'idée d'une union fédérale fait son chemin. En 1946, lors d'un discours à l'université de Zurich, Winston Churchill avait invité les pays européens à constituer une sorte d'États-Unis d'Europe. Ça commence bien. Mais c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale de 1945 qu'elle se concrétise car l'Europe était en ruine. Et les dirigeants européens aspiraient à prévenir de futurs conflits. En mai 1948, le Congrès de La Haye milite pour la création de l'Union ou la Fédération. Voilà, alors là, il y avait les deux mots qui commençaient à apparaître, Union européenne ou Fédération, dont le but serait d'assurer la sécurité des peuples et de transférer certains droits souverains pour les exercer désormais en commun. La création d'une Assemblée européenne, la rédaction d'une charte des droits fondamentaux et l'institution d'une Cour suprême européenne comptent parmi les principales demandes concrètes du Congrès de La Haye. Elles seront suivies, donc toutes ces propositions, par la création du Conseil de l'Europe via le traité de Londres en 1949. Oui, je vous fais toute une chronologie. Hein.
Mais il manque des choses.
Ah oui, non, mais.
Non, mais. C'est
j'ai
surtout,
vraiment. Je m'en excuse, chers auditeurs et auditrices.
Tu fais une thèse trop politique. Or, comme le dit très bien Michel Benizri, que j'ai interviewé et qui nous a fait une magnifique conférence gesticulée, les vraies raisons, c'est jamais les religions. C'est le nationalisme, le colonialisme et le capitalisme. Et qu'est-ce qui est le vrai fondement de l'Europe ? C'est la CECA.
Oui, alors j'en parle. Hein,
voilà, qui est la communauté du charbon et de l'acier.
Voilà. En fait, c'est l'économie et le grand capitalisme.
C'est exactement.
Ouais.
Et en faire une version politique qui est intéressante, hein, parce que c'est vrai, tout ce que tu as dit est vrai. Mais les vraies motivations, c'est comment avoir plus de brousouf ensemble.
Ouais, c'est là où ça nous mène. Hein. Et en fait, c'était difficile pour moi de parler de l'Europe parce que la semaine dernière, j'avais été vraiment très évasive et, comme tu le disais, peut-être un peu poupa, un peu partisane de certaines choses. Mais cela dit, c'est vrai que je me dis toujours qu'il faut s'en référer à l'historique. Voilà, donc première chronique et chronique, alors acte 1, acte 2, acte 3. Parce que la semaine prochaine, je parlerai plus de l'Europe et de l'agriculture et du changement climatique. Mais là, j'en reste... Parce que finalement, c'est bon de se rappeler l'histoire et de ces grandes étapes un peu historiques de la construction européenne. Je trouvais que c'était important d'en reparler. Voilà. Donc, je continue.
Désolée de t'avoir interrompu.
Non, c'est bien, c'est bien. Je préfère. Donc, c'est en 1950 que les États membres signeront la Convention européenne des droits de l'homme. En 1951. Six pays fondateurs, donc Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne de l'Ouest, ont signé le traité de Paris, créant, alors comme tu le disais, la communauté européenne du charbon et de l'acier, donc l'ACECA. Cette coopération économique qui a jeté les bases d'une union européenne plus large. Donc on part, hein, on a bien compris, sur des accords économiques et de gros de produits juteux.
Hein, voilà, exactement. Qui sont vraiment l'acier, je vous renvoie à Germinal, à tout ça.
Exactement.
L'acier et le charbon, c'est le capitalisme
triomphant. À outrance, en tous les cas, de fin 19e, début 20e. Robert Schuman, qui n'a pas été le seul, hein, parce que je ne parle pas de Jean Monnet, mais sachons que c'est quand même aussi Jean Monnet, l'un des fédérateurs de l'Union européenne. Mais Robert Schuman estime qu'il est nécessaire d'établir et de fortifier de véritables liens européens pour qu'une paix durable soit possible. Alors oui, hein, la paix, parce qu'on sait bien, on se rend bien compte que finalement, il y a eu beaucoup, beaucoup de conflits, et depuis des siècles et des siècles, en Europe. Donc, Robert Schuman a eu cette bonne idée de rajouter à l'économie quelque chose qui était donc plus institutionnel et qui avait pour prétexte la paix, une paix durable. Et c'est le coup d'envoi à la création d'organisations internationales pour la maintenir, cette paix, et trouver son juste chemin, tels que donc l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de l'Europe et bien sûr les communautés européennes. Le projet est annoncé en grande pompe le 9 mai 1950 par Robert Schuman lui-même, au cours d'une grande conférence de presse au Quai d'Orsay, une date qui passera à la postérité, car malgré notre hymne, nous avons aussi une journée de l'Europe, donc qui se renouvelle tous les ans le 9 mai. Voilà, donc je ne recite pas les pères de l'Europe, parce que bon, allez voir vos livres d'histoire, allez voir sur Wikipédia, voilà, sur Internet. Mais la création de la Communauté économique européenne, la CEE, donc, qui est mise en place par le traité de Rome, c'est Robert Schuman qui devient le premier président de cette Assemblée européenne. Ancêtre du Parlement européen, et ce, jusqu'en 1960. Arrive donc par la suite la Communauté européenne de l'énergie atomique. Donc on est passé du CECA à Euratom. Mais l'objectif était de créer un marché commun pour favoriser la libre circulation des biens, des services, des capitaux et éventuellement des personnes. Bon. De 1960 à 1980, c'est une évolution de l'Union européenne. Elle connaît un développement par l'adhésion de nouveaux membres. En 1986, on signe l'acte unique européen dans le but de renforcer quoi ? Le marché unique. En éliminant quoi ? Les barrières commerciales. Allez, on va commencer à parler des traités. Et en favorisant quoi ? La coopération en matière de politique étrangère et de sécurité. En 1992 arrive le fameux traité de Maastricht. En créant l'Union européenne en tant qu'entité distincte, Union européenne, l'UE, établissant la citoyenneté européenne, introduisant la monnaie unique européenne, l'euro, et renforçant la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Plusieurs traités arrivent, celui d'Amsterdam en 1999, celui de Nice en 2001, donc allez voir hein, si vous voulez avoir les contenus, parce qu'en fait ils traitent de réformes institutionnelles pour faciliter la prise de décision dans l'Union européenne élargie. Et c'est bien à partir de tous ces petits traités signés entre eux, entre amis, de gouvernement européen, que ça se complique, parce que c'est déjà sans nous. Et il ne faut pas oublier qu'en 2005, l'Union européenne a quand même connu un moment marquant avec le rejet de la Constitution européenne par référendum. Ça a commencé par la France et par les Pays-Bas. Et oui, la Constitution européenne était un projet visant à rassembler et à simplifier les traités existants, tout en renforçant l'unité et la démocratie au sein de l'Union européenne. Et oui, les Français, comme les Néerlandais, l'avaient bien compris et ne voulaient pas de certaines choses. Donc en France, le référendum du 29 mai 2005 a été un rejet massif, avec 55% des votants s'opposant à ce projet. Idem au 1er juin 2005 aux Pays-Bas. Le taux de rejet était encore plus élevé qu'en France, avec environ 61% des votants s'opposant au projet d'une constitution européenne. Plusieurs pays, du coup, ont suspendu leur propre référendum prévu, craignant quoi ? Eh bien, des résultats similaires, c'est-à-dire le rejet. Alors, face à ces résultats, les dirigeants européens ont cherché une solution alternative pour avancer dans la construction européenne. En 2007, le traité de Lisbonne a été élaboré. Pour remplacer quoi ? Eh bien, la Constitution européenne, sans nous. Eh bien, voyons. Contrairement à la Constitution, le traité de Lisbonne n'a pas été soumis donc à un référendum. Mais il a été ratifié par les parlements nationaux eux-mêmes. Ils ont maintenu plusieurs réformes institutionnelles proposées par la fameuse Constitution européenne. J'espère que vous me suivez. Il a été présenté sous forme plus acceptable, bien sûr, ce traité. Pour le rendre quoi ? Moins impopulaire. On peut dire que le traité de Lisbonne a consolidé et même simplifié les traités existants, renforçant le rôle du Parlement européen et en introduisant encore d'autres réformes institutionnelles. L'Europe marchande et l'institution européenne s'imposent par ces traités. Avec qui ? Une commission européenne autoproclamée. Bien, c'est pas très réjouissant parce que moi, je ne me sens pas non plus toujours concernée par tout ça. Aujourd'hui, elle englobe, l'Europe, 27 pays membres. Normalement, ça devrait être 28, mais avec le Brexit, le Royaume-Uni l'a quitté en 2020. Alors, passons en 2024. Alors, bien sûr, hein, Poupa, je te vois sourire, mais j'ai quand même, je ne peux pas être plus explicite, hein, à chacun d'aller voir et de se renseigner. Alors, en 2024, l'Union européenne est confrontée à divers défis et enjeux qui influencent son état et son fonctionnement. Certains pays, en particulier ceux du sud de l'Europe, sont confrontés à des défis économiques à cause des niveaux d'endettement importants que lui a imposé la Commission européenne, enfin pas que, hein, et des inégalités sociales. La pandémie du Covid-19 a exacerbé tous ces problèmes, mettant à rude épreuve leur économie. La question migratoire continue à diviser aussi les États membres. Les désaccords persistent sur la manière de gérer les flux migratoires, la répartition des responsabilités entre les pays membres et la protection des droits des réfugiés. La question climatique et la transition écologique, qui doivent mettre en place d'autres traités et conforter des pactes d'engagement, comme le pacte vert remis en cause aujourd'hui suite à la crise agricole. Les agriculteurs européens, soumis à la PAC, eux-mêmes, politique agricole commune pour tous les pays européens et gérée, financée grâce aux ressources du budget de l'Union européenne. Enfin bref, une lourde machine administrative, je dirais même un peu glauque et qui est difficile à saisir. Malgré l'importance de la production alimentaire, les revenus des agriculteurs sont inférieurs d'environ 40% aux revenus non agricoles. Alors, je ne m'étendrai pas plus sur les raisons de la mobilisation des agriculteurs, car ce sera le sujet de la prochaine chronique « L'Europe, l'agriculture et le changement climatique ». Donc, nos agriculteurs, ils sont quand même toujours sur les routes. Beaucoup estiment ne pas avoir eu de réponse à leurs revendications. Et pourtant, la FNSEA a bien su s'en sortir, mais pas les confédérations paysannes. Rien ne va plus. Certains citoyens estiment qu'il existe un déficit démocratique au sein de l'Union européenne. car les institutions européennes semblent éloignées des peuples et les mécanismes de participation citoyenne sont inexistants. Ça entraîne un sentiment de déconnexion entre les citoyens et les décideurs européens. L'Union européenne est aussi confrontée à la montée du populisme. L'arrivée de chefs de gouvernement issus de l'extrême droite remet en question l'ordre politique européen et les questions à nouveau d'ordre institutionnel. Elle est confrontée à des défis géopolitiques tels que les relations avec la Russie à cause de sa position de défense pour l'Ukraine. Alors l'Ukraine, qui n'est pas encore dans l'Europe, mais dont les frontières lui permettraient d'être en Europe. Alors cette guerre rappelle à nouveau des divisions dans l'Europe de l'Est. Il y a un très bon article sur le Courrier international de janvier, une analyse juste, pertinente, d'un journaliste, Ivan Krastev. Alors si vous avez l'occasion d'aller lire le Courrier international à la bibliothèque, pourquoi pas, eh bien je vous invite à lire cet article qui éclaire tout à fait bien pour ce qui se passe au niveau de l'Europe de l'Est. Mais il n'y a pas que cette guerre en Ukraine, il y a Gaza. Cette guerre qui ébranle les sociétés d'Europe occidentale, qui compte une importante population musulmane et attise la peur du terrorisme à nouveau. Alors il y a la Chine, il y a l'Afrique. Allez, une petite pause musicale avec un rap, Racaille, de Kerry James.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Kermès. Vous n'avez jamais connu la précarité, vous vivez à l'écart de nos réalités. La rue le pense, je le mets en musique, et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence, les mêmes promesses, les mêmes mensonges, les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges, les mêmes sons dans la hesse. Les mêmes manges, les mêmes menteurs, trafiquent les mêmes comptes, les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés, les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte, lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé. Tous ceux que j'ai cités ont été condamnés, ce sont les mecs de cité qui me traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem, vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie, vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumul des mandats jusqu'où vous irez? Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus à rien, plus personne croit en vous. Y'a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. À essayer de se débattre comme un cul-de-chat. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus. Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée et scellée. Le dialogue social, j'ai dans un cercle. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée.
Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, il ne sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes là qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. C'est putain de bête, parce que la banque elle est plus forte que vous.
Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Vous votez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez. Chaque fin du mois à découvert. On a l'impression d'être esclave du système bancaire. Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niches fiscales. Les petites PME croulent sous les charges sociales. Radar, on paye, péage, on paye, pollution, on paye. Qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? Que foutait Eric Zemmour sur une chaîne publique? Payé pour propager sa haine, semer des graines récoltées par le FN. Pour vous même Marine Le Pen est devenue fréquentable. Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous divisez. Incapable de rassembler, vous stigmatisez. Aveuglé par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée. Tous vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette Saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous négocie, tout est question de joie. Vous êtes même prêts à livrer les banlieues au Qatar. Votre jeu est trouble. Votre discours est double. Au pays dit des droits de l'homme. L'état d'urgence est devenu la norme. Et vous prétendez faire la leçon au monde entier. Imposer la démocratie à coups de mortier. Sans pitié, vous avez buté Kadhafi. Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye? La roue le sait, je le mets en musique. Vos médias le taisent, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des minguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S? Droit dans mes bottes, je ne baisse jamais mon froc. La tête haute, je suis intègre. Je fais du hip-hop, vous appelez ça de la musique nègre. Genre en indé, tu me verras plus jamais mettre les pieds à Skyrock. Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte. C'est réciproque. Ils ont travesti le RAP. Je fais partie des rescapés. Ils ont encensé la médiocrité. Ils ont fait du hip-hop de la variété. Ils ont gelé clash pour nous diviser. Tant que ça fait de l'audience, on peut s'allumer. Quand un rappeur se fera buter, ils organiseront un concert au nom de la paix. Yeah, je fais de la musique contestataire. Vous vendez des espaces publicitaires. Je me suis sacrifié pour mes petits frères. Vous vous jouez des trucs qui les envoient au cimetière. Fric et violence dans vos playlists. Vous abrutissez les miens, ça plaît aux élites. Vous vous êtes servi de moi, je me suis servi de vous. Pour que mon message passe au plus grand nombre, maintenant je peux le faire sans vous. J'ai un public qui me soutient. J'ai fait des choses, le peuple s'en souvient. La rue vous vomit, je le rends public. Rien n'a changé depuis l'être à la République.
Bien. Bon, après ces dates chronologiques, on va dire, de l'histoire européenne, je voulais compléter et résumer mes propos d'aujourd'hui en reprenant donc ceux d'André Bellon à travers un article. Donc André Bellon, président de notre association pour une constituante et néanmoins ancien président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Donc je vous lis ce qu'il écrit. « Faire l'Europe pour la paix, consolider le couple franco-allemand, renforcer l'unité européenne, autant de slogans qui occupent le débat public depuis des années et qui fondent notre vision imaginaire du monde. Mais au-delà des slogans, qu'est-ce que l'Europe? Sur le plan historique, l'Europe n'a aucun récit commun, tout au plus celui des conflits temporaires et limités dans leur espace. La saga largement diffusée depuis la chute du mur de Berlin d'un continent enfin réunifié, est purement idéologique et ne correspond à aucune réalité historique. Elle est utilisée pour légitimer le renforcement des institutions de Bruxelles et l'extension de l'Union vers l'Est. Le seul élément fédérateur est l'unité du marché, destructeur des fondements démocratiques et d'une véritable vie politique. On ne mesure généralement pas à quel point cette construction, censée nous ouvrir un espace de paix et de prospérité, nous a également enfermés. Ça, c'est bien vrai. Si la nature idéologique de cet enfermement est parfois évoquée et donne lieu, non sans raison, à tout un débat sur une autre Europe, si la soumission de plus en plus nette aux intérêts américains est légitimement critiquée, bien peu de voix s'élèvent pour constater et contester l'enfermement géographique que constitue l'espace européen, ainsi pensé. En particulier pour la France. Il est grand temps de voir à quel point l'Union européenne nous sépare de la Méditerranée et plus largement de l'Afrique. Ah ça oui! Le tropisme du fameux couple franco-allemand a conduit les gouvernements français, en particulier sous la présidence de François Hollande, à ignorer les appels au secours de la Grèce soumise aux intérêts économiques allemands. Ah oui! La France a oublié trop longtemps les conséquences de l'avancée de l'OTAN en direction de la Russie et de l'éloignement de la Turquie de l'espace européen. Partagée entre quelques reliquats des réflexes colonialistes et des discours béats de repentance, elle est incapable de penser sa relation à l'Afrique autrement qu'en termes étroitement sécuritaires, avec pour sanction finale, ultime, d'en être chassée piteusement. Pauvre France. Ah, je crois que j'avais déjà chanté un petit refrain comme ça. Y a-t-il encore une politique étrangère de la France ? La question est posée. En tout cas, elle n'a plus qu'une politique méditerranéenne de façade. Enfermée qu'elle est dans une union essentiellement préoccupée par sa propre frontière est et par la vision stratégique des Américains. L'Europe se trouve à un tournant. Les illusions qui ont accompagné l'unité de façade face à la Russie en 2022 et les incantations sur le moment géopolitique qui vivrait l'Union ont vite été dissipées par les tensions économiques liées à l'inflation et à la multiplication des crises internationales. La volonté d'un sursaut fédéraliste, passage en force souhaité par une poignée de dirigeants européens, ne peut qu'accentuer ces dérives. Retrouver la volonté des nations et des peuples n'est pas un obstacle au renforcement de l'Europe, ni le risque d'offrir un boulevard à l'extrême droite. Mais au contraire, en brandissant l'étendard de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une nécessité pour lui redonner souffle devant un monde qui bouleverse les équilibres qui prédominaient jusque-là. Voilà, je vais finir avec les paroles d'André Bellon. Je suis désolée, j'ai oublié la feuille qui mettait un titre exact sur un livre de Victor Rib. Je suis désolée, j'ai oublié le titre, mais la semaine prochaine, vous aurez droit à deux titres de livres. Et un site également que j'ai oublié, mais je crois ça s'appelle l'Europe. Alors peut-être que Poupa va avoir le temps de chercher l'europepourtous.com. Autrement, la semaine prochaine, bien vous aurez deux livres et deux sites, et je m'en excuse par avance. Donc, avant de vous dire à la semaine prochaine, je vous laisse avec un titre de Kenny Arcana, qui vient du rap français aussi, Poupa ?
Tout à fait.
Voilà, avec un titre, Gaza, parce que voilà, je suis toujours aussi triste de ce qu'il s'y passe et toujours autant en colère de ce manque d'intervention pour soutenir davantage le peuple palestinien. Voilà, Poupa, as-tu trouvé ce site, l'Europe pour tous ? Non, bon. Eh bien, écoutez, la semaine...
J'ai beau chercher, il n'apparaît pas dans mes
réponses. La semaine prochaine, préparez vos crayons, parce que vous aurez droit à deux titres de livres et à deux sites. Voilà. Allez, je vous laisse écouter ce titre, Gaza.
Détourne ton histoire, mais au fond ils savent très bien. Bafoués par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin. Enclavé comme du bétail par celui qui t'a volé ta terre. Seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut te voir disparaître. Et les puissants soutiennent celui qui veut t'abattre. Des pluies de missiles comme s'ils voulaient créer de la cage. Enfermé dans la cage, périra sous les gravats.
prisonniers, même sous les bombes. Font tout pour déshumaniser. L'oppression se compte en générations, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendront soin de jamais mentionner l'apartheid. Prendront soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre. Mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Et les puissants soutiennent celui qui veut ta part. Des pluies de missiles comme s'ils voulaient créer de la cave. On est dans la cage, périra sous les gravats. Et les médias diront que c'est pas grave. Enfant né dans la cage, périra sous les gravats. Les médias diront que c'est pas grave. Sous les yeux du monde meurt Gaza. Terre sacrée est abreuvée de sang. L'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Terre sacrée est abreuvée de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif.